Raphaël est en forme ce soir. Merci quand même Raphaël et toute son équipe pour ces beaux chants de louange. C'est tout le dernier qui nous rappelle que notre Dieu est miséricordieux, gracieux. Alors, il me fait plaisir ce soir de vous présenter notre prédicateur invité, René Boisvert, qui est marié avec Mylène Tremblay, qui est ici avec nous ce soir. On la souhaite aussi la bienvenue. Parents de deux enfants, deux filles, notre frère travaille aux Ouvertures Saint-Boniface, qui est une entreprise familiale, porte et fenêtre. Et il est chrétien, il est connu le Seigneur en 1990. Actuellement, il est membre de l'Assemblée chrétienne de Trois-Rivières-Ouest depuis 1994. Alors, sans plus tarder, on va demander à notre frère de venir nous livrer le message que le Seigneur a mis sur son cœur. Merci.
Bonsoir tout le monde. C'est-tu moi qui s'occupe de ça ou c'est toi en arrière? Cool! Très heureux d'être avec vous ce soir, ça me fait plaisir. Je veux remercier M. Bridgman qui m'a lancé l'invitation. C'est la deuxième en très peu de temps, mais la première, il y a eu un contretemps. La tempête de neige a été plus forte que mon message, donc ça a été reporté, mais ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Le titre de mon message, si je pouvais en donner un, ça va s'intituler comme ci, « Soyons des croyants consacrés ». Je vous invite à tourner avec moi dans Luc chapitre 9. On va lire les versets 18 à 26, où le Seigneur Jésus va nous lancer une grande invitation à se consacrer pour lui. Luc chapitre 9 et à partir du verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie. » Les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. J'introduirai mon texte, mon message de cette façon-là. Lorsqu'on a demandé au Seigneur Jésus quel était le plus grand des commandements, la réponse du Seigneur Jésus a été celle-ci. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Matthieu 22, verset 37. Le plus grand des commandements, aimer Dieu de tout notre cœur. J'ai trouvé ça très intéressant, le dernier cantique qu'on a chanté, qui s'est retrouvé à travers les feuilles sans que ça soit prévu. Ça commençait de demander à Dieu de rendre notre cœur pur. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a de besoin pour pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, qu'il soit pur? Mais vous savez, je trouve ça dommage, et je ne sais pas pour vous, je vais parler pour moi-même, mais je trouve ça dommage que dans ma vie de tous les jours, je n'aime pas Dieu de tout mon cœur. Malheureusement, quelquefois dans ma vie, il va arriver des choses qui vont prendre la place de Dieu. Parce qu'aimer Dieu de tout mon cœur, c'est lui donner la première place dans ma vie, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour toutes sortes de raisons, mon travail va prendre plus de place que Dieu. Je vais tout faire dans mon travail pour satisfaire mon patron, même si mon patron c'est moi, mais je vais tout faire pour satisfaire mon patron. Je vais tout faire également pour satisfaire mes clients. Mais je me pose la question, est-ce que je fais tout dans ma vie pour satisfaire Dieu? Quelquefois dans ma vie, ça va être pour mes loisirs ou pour m'acheter quelque chose de nouveau. Je vais être prêt à me priver. Je vais être prêt à économiser, je vais être prêt à mettre de l'argent de côté, je vais être prêt à me sacrifier parce que je veux faire quelque chose, je veux m'acheter quelque chose de nouveau. Est-ce que dans ma vie, je suis prêt à faire les mêmes sacrifices? Est-ce que je suis prêt à mettre de l'argent de côté pour Dieu? Me priver dans ma vie pour le Seigneur, ce que je suis prêt à faire pour bien des choses quelquefois. Combien de temps je suis prêt à passer pour le perfectionnement de mon instrument de musique préféré? Demandez à Will, le triangle, c'est à peu près la seule chose que je serais capable de jouer. Mais combien de temps je peux prendre pour perfectionner mon instrument de musique ou pour pratiquer un sport ou pour avoir des loisirs? Je suis prêt à prendre du temps pour ces choses-là, mais est-ce que je suis prêt à prendre du temps pour le Seigneur? À prendre du temps de qualité avec Dieu à tous les jours dans ma vie. Vous savez, je suis jamais trop fatigué pour voir mes amis, jamais trop fatigué pour sortir, jamais trop fatigué pour avoir une activité. C'est même jamais trop compliqué de faire garder les enfants quand c'est le temps de vous rencontrer des amis puis de sortir. Mais c'est drôle, je suis trop fatigué pour aller à l'église. J'ai mal à quelque part, je file pas. Trop fatigué pour aller dans vos cellules, vous, je sais que vous en avez ici au Cap de la Madeleine. C'est jamais compliqué de faire garder mes enfants pour sortir, mais oh, que c'est donc dur quand c'est le temps d'aller à l'église ou de faire quelque chose pour le Seigneur. Toujours dur de s'organiser quand c'est le temps de faire des choses pour Dieu. Je vais m'impliquer dans ma communauté, je vais m'impliquer à l'école avec mes enfants, je vais m'impliquer dans toutes sortes d'activités. Est-ce que dans les projets de mon église, est-ce que je m'implique? Est-ce que j'ai à cœur ce qui se passe dans mon église? Est-ce que j'ai cette même implication-là, cet même intérêt-là? Vous savez, j'ai du temps pour la télé, j'ai du temps pour les journaux, j'ai du temps pour Internet, j'ai du temps pour la musique, j'ai du temps pour les spectacles. Est-ce que j'ai du temps pour entendre ce que Dieu veut me dire? Est-ce que je suis prêt à entendre qu'est-ce que Dieu a à me dire? Ou je suis toujours préoccupé par les autres choses? Je suis préoccupé par qu'est-ce qu'il y a à la télévision, préoccupé par ce que je peux lire dans les journaux. Mais est-ce que je prends ce temps-là en prière, en méditation, en lecture avec Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu a à me dire? Vous savez, toutes ces choses-là que je viens de mentionner, ce ne sont pas nécessairement des choses qui sont mal. Que ce soit le travail, les loisirs, les activités, c'est pas mal en soi. Mais ça devient mal lorsque ça prend la place de Dieu dans notre vie. Lorsque Dieu passe en deuxième derrière ces choses-là, là, ça devient mal. Et je peux vous dire que c'est très, très facile. Trop longtemps, le travail dans ma vie a eu la priorité, a pris la première place et a passé en avant de Dieu. Je vous dirais même qu'il a passé en avant de ma famille. C'est pas mal de travailler. Mais si ça occupe la mauvaise place dans ma vie, ça, c'est mal. Vous savez, on est prêt à faire beaucoup de choses pour à peu près n'importe quoi dans notre vie. Mais on doit s'examiner ce soir et se poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour Dieu? Quels sont les sacrifices, les efforts, le temps que je suis prêt à consacrer? Jusqu'où je suis prêt à aller pour Dieu, alors que pour les choses du monde, je suis prêt à faire tellement de choses? Vous savez, Dieu nous demande d'être un peuple consacré pour lui. Lorsque par la bouche de Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 24, il dira, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. » Eh bien, Dieu demande par la bouche de Paul de courir de manière à remporter ce prix-là. Il fait référence à un athlète qui met tout en œuvre dans sa vie pour obtenir son objectif qui est de gagner. Eh bien, à chacun d'entre nous, il ne dit pas d'être des athlètes, mais il nous le demande de mettre tout en œuvre dans notre vie pour plaire à Dieu. De tout mettre en œuvre dans notre vie pour que Dieu soit à la priorité, à la première place, celle qu'il doit occuper dans notre vie. Il nous demande donc par ces versets-là, et il nous dit que Dieu veut un peuple pour lui qui est consacré. Consacré à Dieu. Comment est-ce que ça peut se traduire maintenant dans notre vie? Eh bien, on doit répondre à l'invitation qu'on a, que le Seigneur Jésus nous laisse dans les versets qu'on a lus ce soir. Verset 23, le Seigneur Jésus nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi. » Suite à la confession de Pierre, où Pierre reconnaît Christ comme étant le Messie promis. Si on voit ça au verset 20, où Pierre a répondu « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Pierre a reconnu que Christ était le Messie. Eh bien, Jésus va lui dire deux choses. Il va premièrement, il va lui annoncer sa mort. Il va lui demander ensuite « Veux-tu venir après moi? » C'est intéressant qu'il parle de sa mort dans ce texte-là, juste avant de l'inviter de se consacrer et de venir après lui. Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est un peu comme si le Seigneur Jésus disait à Pierre, « Ah, c'est beau, là, tu me reconnais comme le Christ parce que je suis là avec toi, parce que je suis présent. C'est facile maintenant de me suivre parce que je suis présent. Mais seras-tu capable de continuer à me suivre quand je vais être mort? » C'est pour ça qu'il lui annonce sa mort. Verset 22. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs.
Seigneur Jésus, tu es en train de dire à Pierre, un coup que je vais être mort et que je ne serai plus avec toi, tu vas être capable de continuer à me suivre. Vous savez, ce n'est pas tout de reconnaître Dieu comme étant le Christ. Ce n'est pas tout de dire que Jésus-Christ est notre Sauveur. Il faut maintenant le démontrer. Est-ce que Pierre sera capable de poursuivre l'œuvre, même après sa mort? Pour l'instant, c'était facile, parce qu'il était là. Mais cette invitation, nous l'avons tous et chacun. Si quelqu'un veut venir après moi. On a cette invitation à être consacré pour le Seigneur. Et ce que Jésus souligne en réalité par cette expression-là, si quelqu'un désire, il faut avoir ce désir-là. Je me suis moi-même posé la question en travaillant sur ces textes-là et sur ce message-là. Est-ce que j'ai ce désir-là intérieur de suivre le Seigneur, de me consacrer à lui? Malheureusement, il y avait trop de choses qui prenaient la place de Dieu, puis mes désirs allaient à gauche puis à droite. Je n'étais pas concentré et centré sur le Seigneur. Je n'étais pas cet athlète-là qui regardait le but qui était de suivre Dieu. Est-ce que je réponds oui à cette invitation-là si quelqu'un veut venir après moi? Je l'ai-tu le désir à l'intérieur de moi? Et vous savez, ce désir-là, cet appel-là, il s'agit d'une volonté qui pousse à agir. Ce n'est pas tout de répondre oui, j'ai le désir, oui, je veux te suivre. Il faut agir maintenant. René Désiel a déjà dit cette expression-là, il faut que les bottines suivent les babines. C'est bien beau de parler. C'est bien beau de dire, oui, Dieu est le sauveur dans ma vie. Oui, Dieu est important pour moi. Oui, j'appartiens à Jésus-Christ, mais je vais-tu le démontrer dans ma vie? Je pense que la première question qu'on doit se poser ce soir, c'est de réaliser à l'intérieur de nous, j'ai-tu le désir de servir Dieu? J'ai-tu le désir de me consacrer à Dieu? De le suivre jusqu'au bout, peu importe qu'est-ce qui va arriver, de me consacrer à Dieu parce qu'il est la priorité dans ma vie. Est-ce que je l'ai, ce désir-là? Vous savez, Jacques, au chapitre 2, au verset 26, a dit ceci, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Est-ce qu'elles sont là, les œuvres, dans nos vies? Vous savez, les œuvres vont être là parce que je suis consacré à Dieu. Si je ne suis pas consacré à Dieu, il n'y en aura pas d'œuvres. Les œuvres, on va les faire pour notre travail, pour nos loisirs, nos activités, peu importe, mais on va œuvrer pour autre chose que pour Dieu lui-même. Est-ce qu'ils sont là, les œuvres, dans nos vies, frères et sœurs, pour le Seigneur, pour Dieu? Ça peut dépendre de notre consécration. Plus je serai consacré pour Dieu, plus j'aurai d'œuvres pour le Seigneur. Et moins je serai consacré, moins il y aura d'œuvres pour Dieu. Mais dans le texte qui est devant nous, suite à cette invitation que Jésus lance au verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, voici ce qu'il doit faire. » 5 choses que le Seigneur Jésus donne dans ce texte-là pour être consacré, pour être un croyant engagé pour le Seigneur. Il nous dira qu'on doit renoncer à soi-même, qu'on doit porter sa croix, on doit suivre Jésus, on doit perdre sa vie. On ne doit pas avoir honte de Christ. 5 choses, Dieu voulant, que j'espère avoir le temps de voir. Ce n'est pas grave si on ne les voit pas les 5, parce qu'elles ne sont pas reliées une à l'autre. C'est 5 choses complètement séparées. Mais Dieu voulant, on va essayer de toutes les voir ce soir. Premièrement, renoncer à soi-même. Nous avons ça au verset 23, où suite à l'invitation, le Seigneur Jésus nous dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, voici ce qu'il doit faire. Premièrement, qu'il renonce à lui-même. » Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Ça veut dire oublier ses propres vues. Oublier ses propres vues, oublier, ne plus penser à chercher uniquement à satisfaire nos propres désirs à nous-mêmes. Vous savez, le moi, notre propre personne, mon beau nom brille là, que j'aime tant regarder, que je cherche à tous les jours à satisfaire, eh bien, renoncer à moi-même, ça veut dire ne plus penser à mes propres désirs en premier. Mettre ça de côté, ces désirs-là. Renoncer à moi-même, c'est veiller aux intérêts des autres. Philippiens 2, verset 4, nous lisons ceci, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Regardez la petite grenouille en haut qui tend la main, à l'autre en bas qui est pris, dépourvu, accroché sur cette branche, qui n'est pas capable de s'en sortir. L'autre en haut lui a tendu la main, parce qu'elle veillait à ses propres intérêts. Est-ce qu'on tend la main à nos frères et nos sœurs? Est-ce qu'on tend la main à notre conjoint, à nos enfants? Parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils ont besoin de nous. Vous savez, renoncer à soi-même, là, c'est s'oublier pour veiller aux intérêts des autres personnes. S'oublier à soi-même, c'est également de servir son prochain. Penser à nos frères et à nos sœurs qui ont besoin d'aide. Être prêt à les servir, être prêt à les aider, être prêt à faire des choses pour eux. En s'oubliant. En faisant passer même les besoins de nos proches avant les nôtres. En étant prêt à faire toutes sortes de choses pour eux. S'oublier soi-même, c'est accepter notre dépendance en Dieu. C'est intéressant parce que ce matin, à Trois-Rivières, c'est justement le sujet sur lequel je prêchais, la dépendance en Dieu. Et je dois vous dire que pour moi personnel, c'est très dur d'être dépendant de Dieu. Parce que si je n'accepte pas le Seigneur dans ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis un bois vert qui sait tout faire, qui connaît tout, qui est bon dans tout, sauf la musique, et qui est capable de réaliser à peu près n'importe quoi sans l'aide de personne. Donc, de dépendre de Dieu, c'est très, très difficile. Mais renoncer à moi-même, dire « Hey, c'est pas vrai que tu es capable de tout faire. C'est pas vrai que je peux tout réaliser. J'ai besoin de Dieu. Il faut qu'il soit là dans ma vie. » Renoncer à moi-même, comme le Seigneur Jésus nous le demande ici, c'est accepter d'être dépendant de Dieu. Ne plus vivre indépendamment de lui. Chercher sa volonté, chercher à ce qu'il soit le maître, qui dirige ma vie. C'est ça, être dépendant de Dieu. S'oublier soi-même, c'est laisser agir Dieu en maître et seigneur dans ma vie. Pas facile de laisser Dieu agir en maître et seigneur dans notre vie. Malheureusement, souvent, lorsqu'on accepte le Seigneur, il devient, oui, notre sauveur. Mais ça prend quelques années, quelques temps avant qu'il devienne véritablement notre seigneur. Vous savez, celui qui va tout diriger, qui va tout contrôler. Trop souvent, on dit au Seigneur, « Non, non, ça, je m'en occupe tout seul. Non, ça, je n'ai pas besoin de toi. Ça, je vais le diriger. Ça, je vais le contrôler. » Renoncer à soi-même, c'est tout donner à Dieu. C'est être dépendant de lui, mais c'est le laisser agir en Dieu et maître dans notre vie. C'est remettre à Dieu notre volonté, nos affections, notre corps, notre âme, et ne plus chercher notre propre bonheur, mais c'est tout abandonner pour Dieu. Tout lui donner, tout ce qu'on peut avoir, tout abandonner pour Dieu. Vous savez, nos ambitions personnelles et nos propres intérêts, nos désirs, ce qu'on veut avoir dans la vie, notre petit confort. Vous avez été obligé de quitter votre petit confort, de peut-être pas votre foyer ce soir, mais à l'extérieur avec ce beau soleil-là, pour venir ici. Quitter notre petit confort. Notre propre justice, ça, c'est pas facile. Très dur, on cherche toujours à se justifier. Cet hiver, on est allé souper au restaurant avec des amis à Trois-Rivières et on s'est parqué dans le parking étagé et j'ai pogné un ticket. Parce que j'étais mal stationné. Au lieu d'être entre les lignes, j'étais un petit peu à cheval sur la ligne. Quand je suis débarqué, mon épouse, elle l'a vu, elle l'a dit, « Garde, tu devrais te... » Non, 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 laisse faire ça. J'aurais dû l'écouter. J'aurais au moins sauvé 45$, qui a été plus cher que le souper d'ailleurs. Mais c'est drôle parce que quand on a eu le ticket, disons que la propre justice est ressortie à ce moment-là. Mais pas la mienne, celle de mon épouse. Je me rappelle, il y avait une petite fille dans le comptoir, celle à qui on payait, qui était probablement sur Facebook, sur son portable. Puis là, ma femme, elle voulait lui dire que ça n'avait pas de sens qu'on aille pogner un ticket. Elle voulait se justifier elle-même. Elle dit, regarde, ça n'a pas de sens. J'étais juste parqué un peu. Ça n'a pas d'allure. Puis, il a fallu que je la calme. Je dis, non, garde, là, ça donne absolument rien. Petite fille de 16 ans sur Facebook, là, mes conseils partis, là, je pense pas que ça va changer quelque chose. Là, je prends son exemple personnel, mais c'est parce que c'est lui que j'ai mis dans mes notes. C'est vrai, j'ai rien trouvé de mal là, à part pour moi. C'est probablement pour ça. Mais notre propre justice, on a-tu le goût de la faire? Hein? On a-tu le goût de se justifier soi-même? Mais renoncer à soi-même, c'est de dire non. Je me justifie pas. Dieu va s'occuper de ces choses-là. Dieu va rendre la justice à ces gens-là. Renoncer à moi-même, c'est également renoncer aux péchés qui satisfont ma chair. Vous savez, le péché, on ne se comptera pas de mentir. C'est beau et c'est le fun. Sinon, on n'aimerait pas ça. Ça satisfait notre chair. Ça nous satisfait intérieurement. Mais renoncer à moi-même, c'est dire non à ces choses-là. C'est dire non au péché dans ma vie. Dire non, ça, j'en veux plus. Parce que ça ne satisfait pas mon homme intérieur, mais ça satisfait ma chair. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Il y a deux buts qui sont recherchés par le Seigneur Jésus et par Dieu lorsqu'il parle du renoncement de soi-même. Le premier but, c'est de rechercher les intérêts de Dieu. Philippiens 2, verset 21, nous lisons, « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher les intérêts de Jésus-Christ et les seuls. C'est les seuls intérêts qu'on doit chercher. Et également, le deuxième objectif pour Dieu, c'est de rechercher les intérêts des autres. 1 Corinthiens 10, verset 24, nous lisons, « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Deux choses que Dieu veut pour nous lorsqu'on renonce à nous-mêmes. On recherche ses propres intérêts à lui, ceux de Dieu, mais également ceux des autres. Les gens qui nous entourent. Comment on peut appliquer ça maintenant dans nos vies? Qu'est-ce que ça doit changer maintenant dans ma vie? Parce que je dois renoncer à moi-même. Si on le prend premièrement dans mon Église, vous savez, chaque décision, chaque action que je vais poser ne doivent pas tenir compte de mes désirs, ne doivent pas tenir compte de mon bien-être, ne doivent pas tenir compte de mes intérêts ou de mes convictions, mais le bien-être en premier des membres. Le bien-être et la volonté de Dieu. Je ne dois pas prendre une décision dans l'Église basée sur moi-même. Moi, je veux que ça marche comme ça, puis je prendrai cette décision-là. Puis tant mieux si je suis dans le comité pour pouvoir influencer les gens, parce que c'est mes convictions, pas comme ça. Renoncer à soi-même dans l'Église, c'est ne pas penser à nous-mêmes, mais penser à Dieu et penser aux membres en premier. Et maintenant, dans ma vie personnelle, comment je traduis ça? Vous savez, il y a plein de gens autour de nous. On a nos conjoints, nos enfants, nos familles, nos parents, plein de gens autour de nous. On a juste à veiller à leur propre bonheur. S'occuper du bonheur des gens qui nous entourent en premier. Arrêtons d'être nombrilistes, d'être égoïstes et de penser juste à nous-mêmes. Chérie, ça va-tu bien aujourd'hui? T'as-tu besoin de quelque chose? T'as-tu besoin d'aide pour faire la vaisselle? Va chercher la voisine, elle va t'aider, ça va lui faire plaisir. Ah, j'ai des gens qui sont d'accord avec moi, c'est bien. Veillez aux besoins de nos enfants. Qui sont là, qui souffrent, qui ont peut-être besoin d'aide. Imaginez si tout le monde fait ça. Si moi, je pense à ma femme, à ses besoins, puis qu'elle a fait ça pour moi, on va être heureux, ça va être le bonheur parfait. Renoncer à soi-même. Si je pense, je suis prêt à me sacrifier pour les autres. Je suis prêt à m'oublier pour pouvoir prendre soin de mes proches. Soyons prêts à sacrifier notre temps, notre argent, nos désirs, nos goûts, notre volonté, premièrement pour Dieu et ensuite pour les autres. Deuxième chose que nous avons dans ce texte-là, et je me rends bien compte que je ne suis pas sûr que je vais aller jusqu'au bout, la deuxième chose que le Seigneur Jésus nous dit, c'est qu'on doit porter chaque jour notre croix. Nous arrive parfois d'utiliser cette expression-là. « Ah, aujourd'hui, j'ai porté ma croix. » Ou « Ah, là, je suis en train de porter ma croix. » On l'utilise, cette expression-là. On va souvent l'associer à des épreuves. On va l'associer à la souffrance. On va l'associer aux difficultés de la vie. On va l'associer à tout ce qui peut se manifester par le rejet ou par le mépris des gens. Je vous donnerai un exemple, que c'est un exemple qui vient de mon père. À la minute où je me suis marié, il m'a dit, là, je commence à porter ma croix. Parce que je m'étais marié. Évidemment, c'est une farce qu'il fait, il l'a fait encore aujourd'hui. On comprend très bien que c'est pas vrai. Mais malheureusement, cette idée-là qu'on a, elle est fausse. C'est faux de penser qu'on porte notre croix parce qu'on a des épreuves ou parce qu'on a des souffrances. C'est faux de penser qu'on porte notre croix parce que ça va mal dans notre vie. C'est faux de penser parce que je porte ma croix parce que mes collègues de travail me rejettent parce que moi, je vais lire ma Bible sur l'heure du midi tout seul puis que je ne veux rien savoir d'eux autres. On a perdu le vrai sens, à mon avis, de ce que ça veut dire perdre sa croix. Pour être capable de le saisir, on doit se placer dans la peau des disciples. Lorsqu'ils ont entendu cette phrase-là du Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux autres? Pour les disciples, lorsqu'ils ont entendu de porter sa croix, ça ne pouvait rien dire autre qu'une seule chose. Ça faisait référence à la tradition romaine. La tradition romaine de la crucifixion qui voulait que le malfaiteur porte sa croix, qu'il se rende jusqu'au lieu pour être condamné et qu'il soit crucifié. Il se rend au lieu d'exécution avec sa croix puis il est crucifié. Il est destiné à la mort. Pour les disciples, ça ne voulait rien dire autre que ça. Porter sa croix, ça faisait référence à cette tradition-là. Le Seigneur Jésus lui-même l'a vécu. Dans Marc 15, verset 27, nous lisons, « Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Mais pour nous aujourd'hui, je traduis ça comment, moi, porter ma croix aujourd'hui? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas peur d'être crucifié aujourd'hui. J'ai pas peur que si je sors dans le cours chez nous et que je crie que j'appartiens au Seigneur, mes voisins sortent, qu'ils montent une croix et qu'ils me plantent dessus. J'ai pas peur de ça, parce que ça n'arrivera pas. Ça n'existe pas aujourd'hui dans nos vies, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, porter ma croix, si ça n'existe pas? Puis si c'est ça que ça veut dire, mourir, c'est ça que ça voulait dire pour les disciples, mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, cette idée de mort avec Christ est toujours présente. Ça ne change pas aujourd'hui, ça reste encore la même chose. Le contexte, il est là quand même. Mais ce que ça veut dire, c'est que je dois faire mourir mon vieil homme. C'est lui qui doit être crucifié à la croix. Pas moi personnel, mais mon vieil homme. Dans Galates 2, verset 20, nous lisons, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je dois faire mourir mon vieil homme. Il s'agit de mourir à moi-même. Mes désirs, mes aspirations humaines, mon confort personnel, mes plaisirs, mes grandes ambitions, mes richesses matérielles, mon égoïsme, ma gloire, ma malice, ma volupté, etc. » Rajoutez ce que vous voulez au bout de cette liste-là, mais tout ça doit mourir. Vous savez, mon vieil homme qui est là et qui me dit « Fais ça, ça va être le fun. Fais tel péché, tu vas aimer ça. Pense pas aux besoins de ta femme, pense aux tiens en premier. Vas-y travailler 20 heures par jour, tu vas être riche. » C'est mon vieil homme qui veut m'éloigner de Dieu. Satan qui sert de mes faiblesses, qui passe par mon vieil homme, par ma chair, qui est là pour m'amener et me détourner de Dieu. Il doit être crucifié puis il doit mourir à la croix. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, il est supposé être mort, réduit au silence. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Luc ajoute dans son texte ici, et il est le seul à le faire, où ce qu'on retrouve ailleurs ce texte-là, il rajoute l'expression « chaque jour ». Je trouve ça intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que mourir à soi-même, faire mourir notre vieil homme, là, ça s'opère graduellement de jour en jour. C'est le commencer au moment de notre conversion et ça va se terminer lorsque Christ viendra nous chercher. Mais tout le temps qu'on est sur terre, on est là pour faire mourir le vieil homme puis le réduire au silence. Crucifier, se crucifier ou être crucifié le vieil homme, ça s'opère graduellement de jour en jour. C'est un travail d'une vie de crucifier notre vieil homme. C'est un long travail qui demande de la persévérance et en même temps, c'est un encouragement à ne pas se décourager. Parce qu'une fois, on pense avoir crucifié le vieil homme, mais whoop, tout d'un coup, il ressort. C'est une lutte qu'on doit répéter et répéter et répéter et répéter. Et on doit se placer devant Dieu et demander qu'il le crucifie, cet homme-là. Que nos passions, nos désirs, notre goût pour le monde puissent être anéantis et réduits au silence. Comment je peux appliquer ça maintenant dans ma vie, dans mon église personnelle? Est-ce que je suis prêt à faire mourir mes ambitions personnelles? Est-ce que dans l'Église, la seule chose qui compte, c'est moi-même? Puis que tout ce que je veux, c'est que ça marche à ma façon, à ma manière. Puis je vais tout faire pour m'infiltrer dans le comité décisionnel pour que je puisse l'amener à penser de ma manière, à ma façon. Crucifier le vieil homme, c'est faire mourir mes ambitions personnelles dans l'Assemblée. Voir que peut-être des frères et des sœurs qui sont mieux placés que moi pour faire tel ou tel rôle, qui sont mieux placés, qui ont un don supérieur pour pouvoir faire telle chose, puis que je n'ai pas besoin d'être partout en même temps. Faire mourir mes ambitions personnelles dans l'Église. Est-ce que je m'implique à fond en laissant de côté ma vie? Ce n'est pas facile de s'impliquer dans l'Église. Ça demande des sacrifices puis des efforts. Mais est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je suis prêt à sacrifier du temps? Est-ce que je suis prêt à sacrifier des loisirs pour m'impliquer dans mon assemblée? Pour que l'œuvre de Dieu que vous avez ici, le flambeau au Cap de la Madeleine ou nous autres à Trois-Rivières-Ouest, puisse continuer à brûler. Que les gens autour puissent voir qu'il se passe quelque chose dans l'Église. Est-ce que je suis prêt à laisser de côté des choses dans ma vie pour pouvoir m'impliquer dans mon assemblée? Est-ce que je cherche ma gloire ou la gloire de Dieu? Ça, c'est intéressant. Trop souvent, on va faire des choses pour le Seigneur, mais ce n'est pas vraiment pour lui. C'est pour notre propre gloire. Et je dois vous confesser, frères et sœurs, que lorsque je suis venu prêcher ici au mois de juillet, lorsque j'ai eu l'appel de Michel Penneau, après avoir ressenti un tressaillement intérieur de stress, très, très rapidement, l'orgueil a embarqué. Très, très rapidement, je me suis dit, moi, je m'en vais y aller au Cap, moi, y aller prêcher, puis moi, lui montrer qu'il y en a un qui prêche à Trois-Rivières-Ouest. Moi, lui montrer là, qu'il n'y a pas juste Doug Virgin, Michel Penneau et Trevor Bridgman. Il y en a d'autres qui sont capables de prendre la parole. Puis moi, je suis capable de le faire. Il y a Jean-Luc. Il me regardait tout piteux. Honnêtement, j'ai eu ce sentiment-là. La gloire. Les spotlights que je voulais qu'ils soient tournés sur moi. Puis venir montrer à la grosse église ici au Cap là, qu'il y en a d'autres qui sont capables de prêcher ailleurs. Heureusement, Dieu m'a ramassé par le chignon du cou, un peu comme ma mère le faisait quand j'avais 4 ans. Puis il m'a sorti de là, parce que j'étais rendu vraiment sur un terrain très, 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 très glissant. Mais Dieu m'a épargné. Et aujourd'hui, je la remercie énormément parce que ça aurait été un fiasco total si j'avais gardé cette attitude-là. Mais dans la vie de tous les jours, dans mon église, est-ce que ça m'arrive d'agir comme ça? Est-ce que ça m'arrive de voir les spotlights, la gloire tourner sur moi? Puis je vais faire des choses dans l'église, pas pour Dieu, mais pour moi-même. Est-ce que dans mon église, j'ai cette soif de pouvoir? Je veux diriger. Je veux être en haut. Je veux que ça marche à ma manière. Je veux que tous les yeux soient tournés vers moi. Rapidement également, dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que je peux appliquer cette chose-là de porter ma croix, c'est-à-dire de faire mourir mon vieil homme? On doit se poser des questions pour savoir qu'est-ce que je cherche à satisfaire en premier dans ma vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Satisfaire ma chair ou satisfaire l'Esprit de Dieu en dedans de moi? Qu'est-ce que je veux satisfaire? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est quoi mes passions? De quoi je discute avec mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce qui me passionne le plus dans ma vie? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est autre chose? De quoi ma bouche est remplie? De quoi mes pensées sont remplies? Après quoi je cours à tous les jours? Quand je me lève le matin, c'est quoi la première chose que je fais? Est-ce que je prie le Seigneur ou je vais ouvrir la télévision? Est-ce que je rouvre la Bible ou je rouvre le Journal de Montréal? Qu'est-ce que je veux satisfaire en premier? Ma chair ou Dieu? C'est quoi mes passions? Est-ce que je suis prêt à faire mourir le moi intérieur en luttant jusqu'au sang face au péché? Hébreux 12, verset 4. Je suis prêt à aller jusque-là, lutter jusqu'au sang avec le péché, où je me dis, c'est pas grave. Je vais chuter, mais Dieu va me pardonner. Je vais aller au ciel quand même, ça ne dérange pas. Dieu va m'accepter pareil. J'ai rien qu'à demander pardon. Est-ce que je lutte face au péché? Est-ce que je nourris plus ma chair ou le moi intérieur? Est-ce que je me préoccupe de ma vie ou je me préoccupe de Dieu? Il est où Dieu dans ma vie, dans mon échelle de priorité? Il est-tu en haut, deuxième, troisième, quatrième, peu importe. Mais s'il n'est pas en haut, oubliez ça. Il faut qu'il soit placé en haut. Mais pour tout ça, je dois faire mourir mon moi intérieur. Mon vieil homme doit être crucifié à la croix. Troisième chose qu'on voit dans ce texte-là, suivre le Seigneur Jésus. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. L'expression « suivre », elle signifie « se joindre et accompagner ». Et elle est très bien démontrée dans Matthieu chapitre 4, les versets 19 à 22. On ne prendra pas de temps de lire le texte. Vous le connaissez, c'est lorsque Jésus rencontre Pierre, André, Jacques et Jean. Il leur demande de le suivre et ils vont l'accompagner. Ils vont partir derrière lui, ils vont le suivre. C'est cette même expression-là qu'on a ici devant nous. Jésus nous dit qu'il est le bon berger et les brebis le suivent dans Jean 10, verset 4. Être derrière Christ, le suivre. Suivre Christ, qu'est-ce que ça va nous apporter dans notre vie? Le but de suivre Christ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va nous mener dans le chemin de l'obéissance. C'est évident. Si je me place derrière Christ et que je marche dans ses voies, ça va me mener dans le chemin de l'obéissance. Je ne pourrai pas aller ailleurs. Je ne me détournerai ni à gauche ni à droite. Je vais lui obéir. Je vais le suivre. Ça ne me conduira jamais dans l'erreur parce que Christ n'a jamais commis d'erreur. N'a jamais commis de faute. Ça ne m'égare pas non plus, ça ne m'éloigne pas des sentiers de Dieu. Ça me garde dans le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et je ne m'éloignerai jamais des voies de Dieu. Mais vous savez, suivre Christ, pardon, ce n'est pas seulement le regarder agir. Dans le texte qui est devant nous, derrière le mot « suivre », dans le texte original, il y a l'idée d'être des imitateurs de Christ. Ce n'est pas tout de le suivre et de le regarder agir. Le but du Seigneur Jésus, lorsqu'il nous dit ce mot-là de le suivre, il veut qu'on devienne ses imitateurs, qu'on le copie et qu'on agisse exactement comme lui. Paul aux Éphésiens, il dira « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Éphésiens 5, verset 1. Mais pour être un imitateur de Christ, je me dois de le suivre. Je me dois de le regarder, qu'il devienne mon modèle, mais également de répéter ses actions. Il s'agit d'agir comme lui, de suivre l'exemple et les enseignements de Dieu. Il doit devenir notre modèle à suivre. Nous devons chercher non seulement à marcher derrière lui, à le suivre, mais à chercher à imiter ce que nous voyons de lui. C'est ça qui est le plus important lorsque je dois suivre le Seigneur Jésus. Être capable un jour ou l'autre de pouvoir l'imiter, d'agir exactement comme lui, il a agi. Il s'agit de chercher à être irréprochable devant Dieu en imitant Christ dans notre vie de tous les jours. Paul a dit dans Romains 8, verset 29, que nous étions prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Devenir semblable à l'image de son Fils, c'est devenir les imitateurs de Jésus-Christ. Quelques applications également pour le fait de suivre le Seigneur Jésus. On doit se poser premièrement la question, est-ce que je recherche ce but? Est-ce que mon but dans ma vie, c'est de ressembler à Christ? De démontrer aux gens qui m'entourent que Christ est à l'intérieur de moi? Vous savez, mes collègues de travail là, qui savent que je suis chrétien, je n'ai pas besoin de les évangéliser par la Bible à tous les jours. Ils ont juste à me regarder vivre. Ils vont être capables de voir qu'il y a un changement qui s'est opéré dans ma vie depuis que je me suis converti. Je devrais être capable d'évangéliser mes collègues de travail, ma famille, les gens qui m'entourent, mes voisins qui ne connaissent pas Dieu juste par ma vie, mon attitude. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de suivre Dieu et de l'imiter, d'agir comme le Seigneur Jésus agirait. Mais j'ai-tu ce but-là dans ma vie? Je me le suis-tu fixé de ressembler à Christ? Ou je me dis, c'est pas grave, j'y ressemblerai, mais qu'ils viennent me chercher. Vous savez, on a une sanctification et un travail qui doit se faire jour après jour dans notre vie pour être semblable à l'image de Christ. Comment je peux faire pour le suivre? Pour l'imiter, je n'ai pas le choix, il faut que je le connaisse. Si je ne connais pas Dieu, je ne pourrais pas l'imiter. Puis comment je fais pour le connaître? Pas compliqué. La parole, la prière, la communion, les méditations. Combien de temps je passe à chaque jour en communion avec Dieu? Par la prière, par la lecture, par la méditation, en discussion avec ma femme, avec mes enfants. Combien de temps je passe seul à seul avec le Seigneur pour apprendre à mieux le connaître et être capable de l'imiter et d'agir comme lui? Pas tellement sur une journée de 24 heures. Pas tellement. Oubliez le nombre d'heures qu'on dort, là, mais le reste de la journée. Combien de temps je passe avec Dieu, en communion avec lui? Est-ce que je suis prêt à changer dans ma vie ce qui n'est pas à l'image de Christ? Puis, je n'essaierai pas de vous faire croire ce soir qu'on ne le sait pas. On le sait ce que dans nos vies n'est pas pareil comme Christ. On sait ce que dans nos vies on doit changer pour être à son image. Mais est-ce que je suis prêt à le faire? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile. Oh que non, ce n'est pas facile. C'est très dur. Plier, s'humilier, s'abaisser, puis accepter que j'ai des choses à changer dans ma vie, c'est extrêmement difficile. Mais est-ce que je suis prêt à le faire? Si mon objectif, c'est de ressembler à Jésus-Christ, je dois être prêt à accepter que je dois changer dans ma vie. Quatrième chose qu'on a dans ce texte-là, il nous est dit qu'on doit perdre notre vie au lieu de la sauver. En réalité, ce n'est pas compliqué. Dans le verset, il y a deux façons de vivre qui nous est présenté, qu'on peut vivre sur la terre. Notre bref passage qu'on a sur la terre, là, il y a deux façons qu'on peut le vivre. La première façon, c'est de sauver ma vie, mais en réalité, le texte nous dit que je la perds. Et la deuxième façon, c'est de perdre ma vie, mais la réalité, c'est que je vais la sauver. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver ma vie? Essayer de sauver ma vie. Sauver ma vie, c'est ne pas être prêt à mettre en pratique ce qui vient d'être enseigné par le Seigneur Jésus. C'est-à-dire le renoncement de soi-même, de porter sa croix, et de le suivre pour devenir ses imitateurs. Mais pourquoi je ne suis pas prêt à faire ça? Il y a des raisons. C'est rarement parce que ça ne me tente pas. Il y a des raisons qui me poussent à ne pas renoncer à moi-même, à ne pas porter ma croix, faire mourir mon vieil homme, et à ne pas vouloir suivre le Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas compliqué, c'est parce que ma vie est tellement importante. Ma vie personnelle, là, ma vie terrestre est tellement importante que je veux la vivre comme je l'entends. Puis je veux la vivre comme je veux. La seule préoccupation que j'ai, c'est de satisfaire mes propres désirs. C'est juste ça qui me préoccupe. Dieu, c'est pas grave, mes désirs à moi. Fait, je suis pas prêt à renoncer, à porter ma croix et à le suivre parce que je veux juste satisfaire mes propres désirs. C'est de vivre uniquement dans le temps présent avec un égoïsme me poussant uniquement vers mes appétits personnels, oubliant Dieu, le tassant de ma vie, l'éliminant de dans ma vie. Il s'agit de se mettre au service du monde pour bénéficier de ce qu'il peut combler ma chair puis m'amener une sécurité qui est illusoire. Regardez-les, les gens vivent autour de vous qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'arrêtent pas. Parce qu'à la minute qu'ils vont s'arrêter, ils vont réaliser qu'il y a un gros vide. Qu'ils n'ont pas réussi à combler par leurs deux belles voitures, la piscine creusée, la grosse cabane, la grosse job, les voyages, etc., etc., etc. Ils n'ont pas réussi à combler ce gros vide-là. Fait qu'ils n'arrêtent pas. Parce qu'ils ne veulent pas prendre conscience que ce vide-là est là. Une sécurité qui est illusoire. Il s'agit de mettre le moi au centre de ma vie et de tasser Dieu. De persévérer dans mes plaisirs, dans mon orgueil, dans mon honneur, dans mes relations que j'ai avec la mondanité. Je ne suis pas prêt à renoncer. Je ne suis pas prêt à porter ma croix parce que ma vie est trop importante. Et le résultat, nous dit le Seigneur Jésus, ben, tu vas la perdre, ta vie. Si tu agis comme ça, tu vas perdre ta vie. Pourquoi tu perds ta vie? Parce que tu n'auras jamais une vie qui t'épanouit. Si tu cherches juste à satisfaire ta chair, ta vie ne sera jamais épanouie. Parce que ta relation avec Dieu, elle n'existera pas. Elle ne sera pas présente. Ta vie, elle va être perdue. Pourquoi qu'elle va être perdue? Parce que tu travailles pour une vie qui est mortelle. Vous savez, il y a deux choses qui sont sûres dans la vie. Hein? Les impôts, puis on va mourir. Deux choses qui sont sûres. Puis si je m'épanouis juste dans ma vie, si je cherche juste à m'épanouir dans ma vie mortelle, qu'est-ce que ça me donne? Je vais tout perdre à la fin. Coffre-fort, il ne suit pas le corbillard. Ça ne donne rien. C'est une perte. Je vais également perdre ma vie d'obéissance envers Dieu. Quelle tristesse de voir un enfant de Dieu qui n'obéit pas au Seigneur. Il perd tellement de bénédictions, il perd tellement de choses dans sa vie. Puis au contraire, la joie d'obéir. Le privilège de savoir qu'on a obéi au Seigneur, n'est-ce pas merveilleux? Mais si je cherche à gagner ma vie, à sauver ma vie, je vais la perdre parce que je n'aurai jamais une vie d'obéissance. C'est la perte d'une joie, d'un bonheur d'avoir obéi au Seigneur. La deuxième façon de vivre, c'est je suis prêt à perdre ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire perdre sa vie? Eh bien là, je suis prêt à la sacrifier pour Dieu. Je suis prêt à la faire mourir. Je suis prêt à renoncer à moi-même. Je suis prêt à des sacrifices. C'est l'abandon de soi pour Dieu. Ma vie n'existe plus. Elle ne compte plus. Il y a juste Dieu qui est important maintenant. Il prend la priorité dans ma vie. C'est faire taire mes désirs, mes besoins et mes passions pour la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui prend la place et qui prend toute la place dans ma vie. Le résultat de celui-là, il va sauver sa vie. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Si tu es prêt à perdre ta vie sur terre, tu vas gagner ta vie au ciel. Tu vas gagner la vie parce que tu vas avoir la joie d'avoir une vie d'obéissance. Tu vas avoir également de vivre une proximité avec Dieu, une relation intime avec lui. Tu vas également avoir une vie spirituelle et éternelle. Tu vas avoir travaillé pour une vie spirituelle et éternelle plutôt que d'une vie mortelle. Et celui qui va sauver sa vie parce qu'il va accepter de la perdre sur terre, il va réussir sa vie comme Dieu le veut et comme Dieu l'espère pour lui. Quelques applications pour le fait de perdre sa vie. On doit se poser des questions et se demander, est-ce que ma vie est utile pour Dieu? Est-ce que ma vie est utile? Est-ce que je sers à quelque chose pour le Seigneur? Ou ma vie est uniquement pour moi? Rien qu'à moi. Puis je ne sers absolument rien pour Dieu. Est-ce que je cherche la satisfaction de ma chair ou la satisfaction de Dieu? Est-ce que mes efforts, mes sacrifices, mon temps, est-ce que je l'emploie pour Dieu ou je l'entends pour ma chair? Qu'est-ce que je cherche en premier dans ma vie? Matthieu 6, verset 33, nous lisons « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais premièrement, le royaume et la justice de Dieu. » Il me reste une minute. On n'aura pas le temps de regarder tout le restant. Juste vous dire une chose. Lorsque Dieu nous dit « Car quiconque aura honte de moi, le Seigneur Jésus, verset 26, et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. » Pourquoi quelquefois on a honte de Dieu? Quelquefois on en a honte parce qu'on n'a pas le goût d'être ridiculisé. On n'a pas le goût que les gens se moquent de nous autres. On n'a pas le goût que les gens nous mettent de côté, nous tassent dans un coin puis qu'ils ne nous aiment pas. On veut être aimé des gens, on veut que les gens nous apprécient. Puis quelquefois, on ne sera pas prêt à prendre les positions qu'on doit prendre pour le Seigneur. Quelquefois, on va marcher en conformité avec le monde. Romains 12, versets 1 à 2, c'est ce qu'il nous est dit dans le texte. « Ne vous conformez plus au siècle présent, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Marchez à contre-courant avec le monde. » Quelquefois, on accepte ce que les gens font autour de nous sans dire un mot. Quelquefois même, on va participer à leur activité, alors qu'on ne devrait pas le faire. ne pas avoir honte de Dieu, et je termine avec ça parce que l'heure est déjà finie, puis j'ai peur que la trappe rouvre en dessous. Ne pas avoir honte de Dieu, c'est ne pas avoir peur de prendre nos positions. De dire aux gens, non, moi, j'écoute pas tel film parce que c'est pas correct. Moi, je vais pas à telle place parce que c'est pas correct. Moi, je fais pas ça parce que Dieu ne veut pas que je le fasse. Puis c'est pas correct devant Dieu. Moi, je fréquente pas telle ou telle personne pour X raisons, parce que c'est pas correct. Des mauvaises influences pour moi. Ne pas avoir honte de nos positions. Non, moi, je paye pas au noir chez le garagiste pour sauver les taxes parce que c'est pas correct. Puis Dieu veut pas que je fasse ça. Non, moi, je fais pas ça parce que Dieu ne veut pas que je le fasse. Est-ce qu'on prend ces positions-là pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à le faire avec les gens qui nous entourent? Pas facile. C'était la cinquième chose. C'est arrivé comme ça ce soir, c'est correct. Mais juste de retenir qu'on ne doit pas avoir honte de Dieu et qu'on soit prêt à prendre des positions pour lui. On va terminer par la prière. Père céleste, Seigneur Dieu, on veut... Tout d'abord, on veut être extrêmement reconnaissant et te remercier pour la parole que tu nous as laissée. Elle est là pour nous enseigner, pour nous réconforter, mais également pour nous corriger. Elle est là pour changer les choses dans nos vies qui ne sont pas correctes, pour nous ramener ou pour nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, on a vu que ce que tu demandes à ton peuple, c'est qu'il soit consacré pour toi. Est-ce qu'on est prêt à te suivre? Est-ce qu'on est prêt à devenir tes imitateurs? À renoncer à soi-même, à porter notre croix, à perdre notre vie, à ne pas avoir honte de toi. Seigneur, on s'humilie devant toi et on te demande la puissance, la force et la capacité d'agir selon ces textes-là. Nous voulons répondre oui à cette demande si quelqu'un veut venir après moi, mais en sachant très bien que c'est beaucoup d'implications dans nos vies. On te demande dans nos faiblesses, dans nos manquements, qu'on soit capable de mettre en pratique ces textes. Parle à nos cœurs, Seigneur, par ta parole. Dans ton bon nom qu'on t'en prie. Amen.